Pierre.
Parce que notre santé, c'est important, voici Maud Émilie Méthode, kinésiologue.
Hello, hello, hello.
Bon matin, tout le monde.
Ça va, oui?
Ben oui, ça va bien.
Comment ça va sur Zoom, les exercices pour les 55 et plus?
Ça va très bien. On est fidèle au poste tous les mardis et jeudis, ouais. Là, à 9h. C'est un bon moyen, de connecter là, de ce temps-ci, hein?
Oui, c'est une période de l'année pas facile. On a beaucoup moins d'énergie, puis ça affecte tout le monde.
Ouais,
se prêter à l'exercice, quelquefois, il faut un sérieux coup de barre, mais c'est tellement porteur après ça. Là,
c'est satisfaisant, c'est clair.
En plein ça. On nous propose quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va parler de pollution et de maladies du cœur.
OK.
Après, ma barre, c'est peut-être une association que vous allez me dire...
Douteuse?
Douteuse, oui, voilà. C'est un peu... on connaît pas trop les impacts, puis c'est un peu ce qui m'amène à vous en parler, parce que moi-même, j'étais pas au courant de ce facteur-là.
Okay.
Bien sûr, vaguement, là, mais pas aussi en détail. Alors, j'ai pris le temps de réviser un article scientifique qui est une revue de la littérature sur les impacts de la pollution et les maladies du cœur.
OK.
Alors, de manière bien générale, les maladies cardiovasculaires, c'est le résultat de prédispositions génétiques et de l'exposition à des facteurs de risque là, environnementaux. La pollution, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, de l'environnement physique, est maintenant reconnue comme un déterminant silencieux, mais important des maladies cardiovasculaires.
Mm-hmm.
En effet, le système cardiovasculaire est hautement vulnérable aux insultes environnementales, par exemple comme la fumée de cigarette, les solvants, les pesticides, le bruit, la température, etc. Donc, pour reprendre une citation de deux chercheurs qui mentionnent que la génétique fait la charge du fusil, donc charge le fusil, mais c'est l'environnement qui va appuyer sur la gâchette.
Ah,
je trouve que ça représente bien la
situation.
Une belle image. Ouais, exactement, des deux facteurs qui vont influencer en proportions différentes là, les gens, mais on voit vraiment qu'il y a un aspect génétique et un aspect vraiment de l'environnement là, quand on développe une maladie du cœur. Alors, dans la chronique de ce matin, on va regarder spécifiquement l'impact de la pollution de l'air et de la pollution sonore sur les maladies du cœur. Alors, commençons avec la pollution de l'air.
Oui.
Première des choses, c'est important de noter que l'étude que je vous reflète est une étude européenne.
Mm-hmm.
Okay? Donc, c'est des référents européens. Mais quand même, ça s'applique bien, je pense,
bien
de manière
ici.
Globale aussi. Là. Alors, 9 personnes sur 10 dans le monde sont exposées à de la pollution de l'air qui dépasse les normes de l'Organisation mondiale de la santé.
Okay.
On parle alors au-dessus de 10 microgrammes par mètre. Mmh. Donc ça, c'est un chiffre là, qui est donné par l'organisation, l'OMS. Là. Mais on sait que bon, presque la totalité des individus qui habitent sur Terre sont exposés à
à divers degrés à de la pollution.
Exactement, plus ou moins importante. On estime qu'environ 9 millions de décès prématurés serait attribuable à la pollution de l'air annuellement. C'est beaucoup de monde, là.
Oui.
Et là-dessus, sur ces 9 millions-là, il y en aurait à peu près la moitié, on parle de 40 à 60 % des décès qui seraient de cause cardiovasculaire.
OK.
OK. Fait qu'on a au moins 4,5 millions de personnes par année qui vont mourir des effets de la pollution de l'air. Alors, c'est assez impressionnant. L'exposition à court terme, quand je parle d'heures ou de journées, est associée à une augmentation du risque d'infarctus, d'AVC, d'insuffisance cardiaque, d'arythmie et de mort subite. Et ça, par 1 à 2 % par chaque unité de pollution supplémentaire. Fait qu'on parle encore de 10 microgrammes par mètre cube.
OK.
Fait que quand j'augmente d'une échelle, j'augmente mon risque de 1 à 2 %. OK, donc si par exemple...
C'est quand même beaucoup.
Oui, puis ça reflète bien un peu ce qu'on pourrait vivre au quotidien ici dans la vallée de la Gatineau parce qu'on n'est pas une région qui est très, très polluée.
Du tout, non.
Du tout, hein, on a beaucoup d'espace.
Un peu à l'écart,
on a beaucoup d'espace vert, il y a peu de pollution, peu de trafic et tout ça. Mais si par exemple vous allez en ville pour une journée ou quelques jours, mettons à Gatineau ou à Montréal ou à la limite à Québec aussi, bien là, vous pouvez vous exposer à ça.
Okay.
Alors ça augmente légèrement le risque, mais quand même.
Oui.
De manière à long terme, ben cette association-là va augmenter de 5 à 10 % par chaque partie de 10 microgrammes par mètre cube.
OK.
Okay? Fait que quand même, là, on voit qu'une quand on est là pendant plusieurs mois versus plusieurs années, ben on peut avoir une augmentation du risque là, quand même de manière assez importante. Il est intéressant de noter aussi que les risques pour la santé cardiovasculaire persistent même à des niveaux inférieurs aux recommandations de l'OMS.
Ah.
Donc, c'est surtout en ce qui a trait aux particules fines. Ça, on entend souvent.
Oui.
Donc, quand on est confronté à ces particules fines-là dans l'atmosphère, ben le risque reste même à des niveaux qui sont inférieurs aux recommandations. Oh. Pourquoi ça fait ça? C'est une bonne question, hein? Parce que quand même, on pourrait se demander c'est quoi le rapport entre ce qu'on respire puis notre cœur.
Ouais.
Ben tout simplement, l'exposition aiguë à la pollution de l'air va induire des changements rapides, comme la vasoconstriction. Ça, c'est le resserrement de nos vaisseaux sanguins, la constriction de nos vaisseaux. des dysfonctions endothéliales, ça c'est au niveau de la paroi des vaisseaux, de la rigidité vasculaire, donc moins de capacité à justement se rapetisser ou s'élargir pour répondre aux demandes, des arythmies, etc. Donc, une exposition à long terme accélère la croissance et la vulnérabilité, pardon, de la plaque athérosclérotique.
Okay.
Donc ça, la plaque, c'est ce qui cause, entre autres, les infarctus. Si ça se détache ou si ça vient complètement obstruer une artère,
ça y est.
Va causer un manque de sang au niveau de l'artère du cœur ou ailleurs dans le corps. Simplement placés, les polluants inspirés par le nez ou par la bouche peuvent se retrouver dans la circulation sanguine
hein,
et créer des débalancements au niveau du système autonome, qui est le système de gestion du stress, ce qui crée une réaction en chaîne là, vraiment là, qui va simuler une situation stressante sur le corps. Hein. Fait, quand on est très stressé, qu'est-ce qu'on fait? Le cœur bat plus vite, on respire plus vite.
Absolument.
Ben, c'est un petit peu ce que je viens de vous décrire.
Okay.
Donc, on va chercher ce système-là. Puis, il est intéressant aussi de noter que les effets de la pollution de l'air se font sentir tant chez les individus qui sont en santé que ceux qui sont malades.
Pas de discrimination à ce niveau-là.
Pas de discrimination. Ça indique donc que la pollution de l'air a un impact dans l'induction, dans la progression et dans l'exacerbation des maladies. Fait que peu importe, ça peut prédisposer à commencer, ça peut progresser, faire progresser ou ça peut faire empirer une maladie.
OK. Okay?
Alors, les recommandations sont que... il faut éviter, quand c'est très, très pollué pour une personne, par exemple, qui est atteinte de maladie du cœur, d'être en contact avec ces polluants-là.
Tout à fait, OK.
Il y a différents trucs qu'on peut utiliser pour se protéger. C'est surtout au niveau personnel, parce qu'au niveau gouvernemental ou au niveau municipal, dans les instances, c'est un petit peu plus complexe là, de se protéger contre une pollution de l'air qui a lieu à l'extérieur, mais bien sûr aussi
certaines
à l'intérieur.
Certaines grandes villes commencent à légiférer à ce niveau-là.
Oui, bon. Tout à fait. Mais voilà, c'est plus des choses qu'on peut faire nous-mêmes.
Oui.
Donc, le port du masque, bon, on le fait un peu par, par obligation.
T'es drôle,
on
toi.
Le fait beaucoup par obligation en ce moment. Mais dans la littérature, on dit que le meilleur masque pour se protéger contre les particules fines, ça reste le N95.
OK. On voit évidemment, ça dans certaines grandes villes à travers le monde. Il y a des gens qui portent le masque même pas en pandémie.
Exact. Parce qu'ils se protègent avec ça contre la pollution.
Les particules.
Oui. Puis le N95, il est hautement efficace pour bloquer les particules fines.
OK.
Fait que c'est la chose la plus intéressante. Les masques de procédure, donc les masques chirurgicaux ou les masques en tissu, les couvre-visage, vont pas bloquer les particules fines de manière uniforme parce que ça dépend du matériel
du tissu et tout ça.
Il y a vraiment des résultats qui sont variables. Alors, l'efficacité de la chose, pour la pollution du moins, là, on peut se questionner. Là, je parle pas du tout de l'efficacité pour le virus.
Non,
faut faire attention.
Du tout, t'es dans la pollution
ce matin.
On parle
de pollution, je veux pas que les gens pensent... c'est ça. Pollution, les masques, plus ou moins efficaces.
Okay.
Virus, on s'en met un dans le visage.
Oui, il n'y a pas de question. Plus simple que ça.
Il y a aussi les assainisseurs d'air portatifs et les échangeurs d'air ou air conditionné qui peuvent être installés dans les maisons.
Oui, mécanique.
C'est efficace. Évidemment, les portatifs, il faut se fier aux recommandations pour le volume de pièces parce que tout dépendamment de leur efficacité. Et les échangeurs d'air, c'est intéressant de changer les filtres régulièrement, bien évidemment.
C'est souvent ça le problème. Hein? On part ça pour oublie.
Oui, voilà. Deuxième pollution qu'on va parler aujourd'hui, c'est la pollution sonore.
Okay.
Donc, on estime qu'en Europe occidentale, c'est à peu près 1,6 million d'années d'espérance de vie en santé qui sont perdues chaque année en raison du bruit.
Ah oui!
OK. Le bruit associé au trafic routier augmente le risque de maladies cardiovasculaires ischémiques de 8% par chaque 10 décibels supplémentaires. Quand même, hein? Des études qui nous viennent de Francfort, de Londres et de la Suisse montrent une incidence plus élevée d'AVC et ou un niveau de mortalité plus important en lien avec le bruit associé au trafic routier. Là, c'est important de noter que dans des villes qui sont moins populeuses que, par exemple, les exemples que je vous ai donnés là, ces associations-là sont beaucoup plus faibles.
Parfait. OK.
Fait que,
puis dans certains cas, on va bâtir, on le voit souvent quand on fait de grandes autoroutes, des murs anti-bruit.
C'est justement l'idée.
Pour les résidents.
C'est justement l'idée de la chose. Je reviens là-dessus dans quelques minutes, mais... tout ça pour dire qu'ici, à Maniwaki, on n'a pas dans la baie de la Gatineau en général, on n'a pas vraiment de bruit de trafic. Alors,
absolument,
ça ne nous affecte pas de la même manière. Mais dans les grandes villes,
ils sont confrontés à ce problème-là.
C'est une réalité. Oui, tout à fait. Le bruit associé au trafic aérien aussi semble avoir un impact en augmentant l'incidence des maladies cardiovasculaires et la mortalité également.
Ah.
Alors, les bruits d'avion, même principe. Donc, on voit un lien entre le bruit associé au trafic routier et les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires aussi, comme l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle.
OK, ça s'ajoute à cette liste existante-là.
Ouais, non seulement ça cause des problèmes cardiovasculaires comme tels, mais ça va favoriser aussi le développement de facteurs de risque qui contribuent à la maladie.
OK.
Donc, ça, c'est important également. Encore une fois, pourquoi ça affecte le corps de cette manière-là? Ben, tout simplement, le bruit déclencherait une réponse qui est émotionnelle. Hein, quand c'est vraiment bruyant, comment on se sent? Ben, agacé, un peu en colère, irritable, à
la limite. Ça nous stresse.
Voilà. Donc, cette réaction-là émotionnelle va déclencher, encore une fois, une réaction en chaîne de stress. Un peu le même principe qu'avec les polluants de l'air. Et cette réaction va causer une augmentation du rythme cardiaque, des hormones de stress, l'agrégation plaquettaire, de l'inflammation vasculaire et le stress oxydatif, qui sont tous des facteurs au niveau de notre cœur, des facteurs de risque. Mm-hmm. Donc, le stress psychologique associé au bruit se traduit par un stress physique qui nuit tout simplement au système. Et là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de corriger tout ça? Ben là, de ce côté-là, c'est vraiment des actions qu'il faut prendre au niveau gouvernemental. Mais pour vous donner une idée, si je réduis de 1 décibel mon bruit, ça va me donner un changement perçu qui est de très petite envergure. Okay? Mais est-ce que ça équivaut en physiquement? Là, c'est de réduire la vitesse qu'on roule de 10 km/h dans les endroits. De remplacer toute automobile à gaz par des automobiles électriques. 1 décibel. Tout le parc automobile au complet doit être changé à l'électrique. C'est quand même un gros changement pour peu d'impact.
Tout à fait. Oui.
Éviter le trafic la nuit, parce qu'on sait que le bruit la nuit est plus dommageable que le bruit le jour.
OK. Ben, le jour, on est actif et tout ça.
Oui, c'est moins agressant probablement que ce qu'il y a la nuit. Et éliminer à peu près 25 % du trafic, ça va équivaloir à 1 décibel de changement. Si on voulait avoir un changement important, de réduire d'à peu près 10 décibels, donc on parle de la réduction de la moitié du bruit, c'est quand même pas tant que ça, mais quand même. On parle de construire des barrières de son plus hautes, ce que tu me parlais tout à l'heure, des murs anti-bruit. D'éliminer 90 % du trafic, puis d'utiliser des fenêtres qui réduisent les bruits. Fait qu'on voit que c'est quand même des changements qui sont assez importants. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce à quoi on expose nos oreilles, surtout dans les contextes où est-ce qu'on est dans de grandes villes.